Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Bonjour, émission d'avis de valeur de rentrée. Avis de valeur, c'est deux choses. D'abord, c'est des sujets qui intéressent et les professionnels immobiliers et le public. Et sujet d'actualité, on va parler aujourd'hui de logement étudiant. Deuxième chose, je rappelle le concept pour nos invités et pour ceux qui n'auraient pas encore écouté avis de valeur. Ce sont deux avis, hein, deux valeurs, hein, avec des gens compétents, deux points de vue différents, complémentaires. Pour aujourd'hui parler de logement étudiant, je commence par présenter Christophe Bernard, qui est l'un des dirigeants de Citia, du groupe Citia, ambassadeur de Citia. Il aime bien ce titre-là, mais c'est vrai qu'il est une voix titrée pour parler au nom de son entreprise. Alors, pourquoi avoir choisi Citia? D'abord, j'aime beaucoup cette entreprise-là, mais c'est pas suffisant. On va reconnaître à Citia la supériorité sur beaucoup de ses confrères d'avoir considéré de longue date que le logement des étudiants, il fallait s'en préoccuper, avoir des offres particulières, avoir une attention particulière. Voilà, le siège du groupe, on le rappelle, c'est à Tours, c'est une ville très étudiante, mais globalement, partout en France aujourd'hui, Citia a une longueur d'avance, je dirais, sur ses confrères pour, au profit des étudiants. Merci beaucoup, Christophe, d'être avec nous. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi, alors c'est un autre point de vue. Pourquoi un autre point de vue? Parce que c'est celui d'une entreprise, d'une jeune entreprise, une start-up, on dit, hein, voilà, moins de 10 ans, c'est une start-up, qui s'est spécialisée sur ce segment et sur ce service à apporter aux étudiants. Le nom de l'entreprise est clair, Studapart. Et on a avec nous Alexandre Ducœur, aujourd'hui l'immobilier Ducœur, je m'étais promis de le faire, voilà. Alexandre Ducœur qui est l'un des fondateurs de Studapart, il en est le président. Donc deux points de vue différents, un point de vue très jeune. Alexandre, vous êtes un jeune entrepreneur dans une jeune entreprise et bien sûr avec le digital hein, comme sous-jacent. Et puis un apporteur de solutions pour les jeunes plus traditionnels, un grand administrateur de biens. Merci à tous les deux, vous allez croisé, je le rappelle, avec trois grandes séquences, hein, sur la base d'ailleurs d'avis recueillis dans la rue par notre réalisatrice, avis de l'opinion. Vous allez y réagir, trois grandes questions. Mais je voudrais rappeler les fondamentaux d'abord du problème du logement pour les étudiants.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
C'est compliqué pour les étudiants. On cherche un appart là actuellement et on espère trouver la pépite.
Moi, je voulais vraiment proche de Paris parce que je suis à Créteil, donc c'est vraiment en banlieue parisienne. Et je voulais avoir le métro, le RER pour vraiment être à côté de Paris parce que Paris, c'est super cher. On a regardé et on a trouvé, mais c'était pas la perle rare, quoi. On va pas se mentir. C'est la galère à fond.
Ouais, c'est compliqué sur Paris surtout. Et en général, les logements étudiants, c'est souvent assez... c'est pas très propre. Du coup, ça donne pas envie d'habiter dans un logement étudiant et on préfère trouver son propre appart et c'est d'autant plus compliqué.
J'ai commencé à chercher, j'ai vu les prix, ça m'a désespérée. J'ai vite abandonné l'idée de prendre un appartement dans Paris surtout.
Au final, j'ai eu de la chance et je suis tombée sur quelque chose de nouveau. Ça vient d'être construit en fait, c'est un nouveau bâtiment étudiant. Et c'était pas trop cher encore, donc j'ai réussi à trouver. J'ai trouvé deux semaines avant d'arriver et je cherche depuis genre juin.
Alors la première question qu'on est posée, elle découle de la réalité du logement étudiant dans notre pays. On a demandé à des personnes, jeunes, moins jeunes, si elles considéraient que trouver un logement étudiant était difficile. Ça peut être des parents, ça peut être des personnes directement concernées. Et Charlotte Eckerle est allée dans la rue pour entendre ces réponses qui sont très riches, très intéressantes. Bien sûr, ça a été fait à Paris, mais ça concerne largement les grandes villes, les villes universitaires françaises. D'où vient le problème? Il vient d'un besoin énorme. 2 700 000 étudiants en France, 55% d'entre eux se logent dans le parc privé à proprement parler. Alors il y a des résidences étudiantes, il y a des résidences, on va dire, publiques, hein, les CROUS, mais globalement, c'est dans le parc privé qu'il va falloir trouver des réponses. Et d'évidence, nos compatriotes n'ont pas l'impression que ce soit facile de trouver des réponses. Alexandre, je commence par toi. L'intuition, ça te permet de nous dire quelques mots sur cette société Studapart hein, que tu as contribué à créer. Quelle était l'intuition? Quel était le problème perçu? Est-ce que l'opinion a raison de trouver que c'est difficile? Et comment on peut simplifier les choses?
Ouais, merci. Je pense que l'opinion, dans tous les cas, on ne peut pas aller contre. Je pense que tous les avis vont dans le même sens. C'est un petit peu ce qui nous a, nous, poussé à créer la solution Studapart. Pour nous, il y a un triptyque de complexité. Le premier, c'est qu'on manque d'offres de logements. Aujourd'hui, notre pays, c'est à peu près 15% de propositions de logements dédiés aux étudiants, donc en résidence étudiante ou résidence CROUS. Et effectivement, après, on a un parc de logements, ce qu'on appelle diffus, dans lequel on peut y trouver un étudiant, mais pas que. Et donc, il y a une compétition entre la population étudiante et les non-étudiants. Et la deuxième complexité, c'est que ça se passe souvent sur des périodes de pic d'activité dans lequel il y a un manque de pédagogie et d'éducation aujourd'hui des personnes qui recherchent, puisque c'est un public, aujourd'hui, les étudiants, qui recherchent souvent pour la première fois leur logement étudiant, donc ils ne savent pas le jargon qu'on utilise dans l'immobilier, donc il faut le simplifier. Et puis, vu que ça se passe sur une période rapide, il faut que le process soit simple, efficace, pour que, y ait de la fluidité et donc qu'on reconnaisse un petit peu moins cette difficulté, cette galère, le sentiment d'être pas pris par la main ou accompagné.
C'est un peu le premier examen à réussir, avant même de passer ce qu'on préparera. Le premier examen, c'est quand même trouver un logement. Tu disais, ce sont des primo-locataires, ça n'existe pas, on ne dit pas ça, primo-locataires, on dit primo-accédants. Ils viennent de chez leurs parents en général, ils ont décohabité et c'est leur première recherche de logement.
Exactement, c'est la première recherche de logement. C'est une recherche de logement où, vu qu'on a tout le temps l'habitude de faire tout à la dernière minute, au contraire, il vaut mieux s'y prendre bien en amont. Donc ça nous met tout de suite dans un bain très stressant, en nous disant y a pas mal de termes que je vais connaître pour la première fois. Et puis on va m'expliquer de rentrer dans un moule parce que l'immobilier et la recherche de logement fonctionnent comme ça.
Ce pic de recherche, c'est entre quoi, mai-juin pour le début et jusqu'à septembre-octobre. On a quoi? On a 4 mois chauds, 3 mois chauds?
Il y a 4 mois chauds, mais en réalité, le stock de logements, là où il se loue le plus, c'est effectivement juin, juillet jusqu'à début août.
C'est ça.
Le mois d'août et le mois de septembre restent des mois extrêmement chauds et c'est là où il y a un très fort déficit d'offres par rapport au nombre de demandes.
Alors, qu'est-ce que Sud Appart, quelle réponse il apporte, quelle était l'intuition de départ, sachant qu'il y avait déjà des acteurs, on va entendre Christophe tout à l'heure, qui étaient là sur le marché.
Oui, alors nous, on ne vient pas forcément en opposition aux agences immobilières. Ce qu'on s'est dit, c'est
Dieu soit loué.
Non, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, dans pas mal de verticales, finalement, de notre vie, que ce soit le voyage ou la nourriture, c'était assez facile, accessible et transparent. Donc, je vais commander à manger, je vais voyager. Et quand on est sur la recherche d'un appartement, donc je vais vivre cette expérience-là plusieurs fois dans ma vie. Et cette expérience-là, elle avait peu été dépoussiérée. Je recherche sur des sites d'annonces classiques. Je n'ai pas vraiment la visibilité sur les conditions d'accès des appartements. Qu'est-ce qui va faire que je vais être pris et pas un autre? Quand je suis international, c'est encore pire. Et donc nous, on est venu avec une réponse digitale, qui est une plateforme de réservation de logements, tout simplement.
Très bien.
Dans laquelle on met en relation l'offre et la demande. Et cette offre, elle est constituée de propriétaires particuliers, investisseurs, qui ciblent des étudiants, mais pas que, en meublé, et des résidences étudiantes classiques, dans lesquelles on investit beaucoup sur justement la pédagogie, les outils, pour faire en sorte de fluidifier le processus de réservation.
D'accord, parfait, c'est clair. Christophe, je disais qu'on pouvait parler d'une spécialisation, de l'intérêt particulier de Citia depuis plusieurs années pour la clientèle des étudiants. On va analyser tout à l'heure avec l'opinion les difficultés particulières qu'on peut rencontrer, mais une première approche, il manque des logements étudiants, les associations disent en permanence, dans la plupart des villes, il en manque. Est-ce que tu arrives à résoudre les problèmes des étudiants quand ils se présentent à toi en juin, juillet, août ou encore ces jours-ci? Comment ça se passe?
Alors, déjà, je te remercie Henri. Et effectivement, Citia s'est positionné assez rapidement vers les étudiants puisque l'un des produits phares, c'était le fameux Loquétude pour nous, où en fait, on permettait à un étudiant de pouvoir avoir un appartement à la location avec des honoraires très réduits, puisqu'à l'époque, on mettait ça à 190 euros, tout compris.
D'accord. C'est fini, tu dis à l'époque?
Non, parce qu'en fait, on le met toujours en place.
D'accord.
Mais à la création de Citia, vous savez, 20 ans que je suis dans la maison, dès le début, c'était le premier produit phare.
Ah voilà, donc je ne me trompe pas. Il y a 20 ans déjà, vous avez eu cette démarche.
Tu as eu raison. Maintenant, je pense que la question du logement étudiant Il y a deux questions. Alexandre l'expliquait très bien. Il y a d'abord le choix de l'appartement. Est-ce qu'il y a assez d'appartements aujourd'hui pour les étudiants ? Et la deuxième question, c'est la complexité pour obtenir cet appartement. Mmh. Sur le choix des appartements, on est toujours en manque aujourd'hui d'appartements, même si, je vois, sur le périmètre Île-de-France, City, on a encore à peu près 160 appartements de taille, de petite taille dédiés aux locataires, étudiants. Mais on se rend compte quand même aujourd'hui qu'il y a une offre qui commence à muter. Elle mute parce que je prends l'exemple de Paris Intramuros, mais moi je connais aussi la partie Le Mans, je connais aussi la partie, on l'expliquait tout à l'heure, Océan Indien, c'est pas du tout les mêmes problématiques. L'offre, elle est pléthore au Mans et à La Réunion, c'est aussi pareil. Mais sur l'Île-de-France, en fait, on s'aperçoit que le Grand Paris vient un peu aider à offrir un panel plus important d'appartements par les accessibilités. Moi, tout à l'heure, j'entendais une jeune dame qui était interrogée. L'une de ses préoccupations, c'était le métro et le RER. Oui. Vous prenez Issy-les-Moulineaux, par exemple. Issy-les-Moulineaux, le maire a obtenu deux stations de métro supplémentaires. Ça permet d'aller encore plus loin dans le choix des appartements.
Très bien.
La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui se développent des plateformes de co-living très intéressantes. Et d'ailleurs, souvent, on a montré du doigt les agences immobilières disant qu'on était assez drastique sur le choix des locataires.
On va y revenir.
Je vous invite simplement à voir comment un colocataire titulaire du bail choisit ses autres colocataires. Ce n'est plus une validation, c'est une cooptation. Donc, ils sont encore beaucoup plus exigeants que nous. Donc, sur le choix des appartements, moi, je pense qu'on manque encore terriblement d'appartements, mais que les nouvelles conceptions sur le co-living, la colocation et l'élargissement du périmètre de résidence des étudiants offrent une plus grande possibilité d'appartement. Après, il y a le problème de la complexité. J'avouerai, et je vais tendre la main vers Alexandre, nous, professionnels de l'immobilier, et nous particulièrement Citia Immobilier, on a été tirés vers le haut par la nécessité de digitaliser, de faciliter l'administratif de nos locataires. Effectivement, on est sur des primo-locataires, primo-accédants locatifs, et que par conséquent, eux, ils ont besoin d'être encadrés, et en plus, il y a un petit regain d'ego, ils veulent le faire seuls, sans les parents. Donc à nous de les accompagner.
C'est une phase d'émancipation, la recherche d'un logement.
Chez Citia Immobilier, Philippe Briand, notre président, est très attaché à la proximité avec nos candidats locataires. Notre premier client, effectivement, c'est le propriétaire qui nous confie la gestion de son bien. Mais il faut savoir quand même que son bien n'est rentable que dès lors que le locataire est assis confortablement dans son appartement avec un dossier correct. Et là, nous aussi, on a mis en place des systèmes de digitalisation. Et entre autres, par exemple, on a un produit qui s'appelle le Locadoc, qui permet d'avoir un échange interactif avec le locataire qui dépose ces dossiers sur notre plateforme, un petit peu comme vous pouvez le faire, Alexandre, et qui nous permettent, grâce à ce dépôt, de valider la solvabilité et la véracité des documents.
Et de le faire très vite ?
Et de le faire super vite, puisque nous, on a un ADN à 48 heures.
Et en
48 heures, on doit pouvoir dire au locataire, 1, vous êtes solvable, 2, vos documents ne sont pas faux, 3, tout ça, c'est validé.
Et quand on a un nom, et ensuite on passera à la deuxième séquence, c'est un nom catégorique où vous pouvez réorienter vers un loyer moindre, par exemple, s'il y a un problème de solvabilité ?
Alors, nous, déjà d'une, ce qu'il faut savoir, Henri, c'est que Citia a une particularité, c'est que nous mettons en location à peu près 95% des logements que nous gérons.
Oui.
Donc, par exemple, tout à l'heure, j'entendais parler de l'entretien des logements. Chez nous, ça n'existe pas. Mmh. On ne met pas en location un logement qui ne serait pas salubre. Et donc, nous, on a une politique de travaux avec nos propriétaires qui est assez dynamique. Mais il y a rarement un non, pour une simple et bonne raison, c'est que le locataire, déjà d'une, on le reçoit en agence. On a une expertise du candidat locataire en agence.
Et vous l'aidez à choisir.
On ne fait pas de visite groupée, on ne lui donne pas les clés en lui disant « allez-y, mon bon ami, allez louer un appartement ». Nous, on le reçoit d'abord en agence.
D'accord.
On lui offre une palette de possibilités en fonction des transports en commun, parce que ça, c'est la principale préoccupation.
Et en fonction de son profil.
Et après, en fonction du profil, nous proposons. Il n'y a pas de demande sans solution.
Parfait. On continue, on va demander dans la rue à nos compatriotes si le locataire fait l'objet de discrimination ou si on est prêt, le locataire étudiant, ou si on est prêt à lui ouvrir largement les portes si on est un investisseur.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Pas forcément, j'hésiterais, il faudrait vraiment qu'il y ait une forte caution ou peut-être les APL, mais que je sois sûr en tout cas que l'argent puisse rentrer. Malheureusement, j'ai déjà eu des mauvaises expériences, donc je préfère éviter, je ciblerais plutôt les jeunes adultes. Un salarié, CDI, ben évidemment le profil le plus complet et sécurisé possible. Voilà, aujourd'hui on a trop d'impasse sur les loyers et on ne peut vraiment pas se les permettre.
Alors, je préférerais un salarié, mais si l'étudiant vient avec un dossier solide et une garantie parentale, je l'accepterai.
Important, Alexandre, ça. Qu'est-ce que on rencontre comme situation ? Est-ce qu'elles sont toutes solubles avec la garantie parentale, peut-être avec d'autres mécanismes ? Je ne sais pas, on a parlé des APL, hein, donc ces aides publiques auxquelles les étudiants ont droit. On a entendu, mais ce serait bien que ces aides, effectivement, soient versées directement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ?
C'est effectivement un point clé aujourd'hui dans la recherche de l'appartement, c'est les conditions d'accès, hein, j'en parlais tout à l'heure, du logement. Il y a plusieurs solutions, hein. Studio Appart a été très précurseur là-dessus avec le développement d'une garantie sans solvabilité. On est les seuls aujourd'hui à cautionner des étudiants ou des non-étudiants sans étude de solvabilité préalable en fait, de leur dossier à partir du moment où ils réservent à travers Studio Appart.
D'accord. On vient couvrir... C'est une assurance.
C'est une assurance et on couvre les propriétaires individuels, hein, investisseurs, justement pour prévenir le risque.
D'accord.
Et après, quand on analyse hein, les stats d'impayés qu'on a ou même sur le marché, ce qu'on voit, c'est que le profil étudiant est souvent décrié par les propriétaires, mais ce n'est pas le profil qui génère le plus d'impayés, parce que par définition, si l'étudiant il est mobile, donc les sommes parfois qui sont en jeu en termes d'impayés sont beaucoup moindres
oui.
Que ce qu'on peut trouver
oui.
sur d'autres profils. Donc ça, c'est le premier point, c'est ouvrir un petit peu le champ justement idéologique autour du fait que l'étudiant, à partir du moment où il n'a pas de ressources, il ne va pas payer, puisque aujourd'hui, il est aidé par ses parents et effectivement aidé par les APL qui couvrent une partie du loyer.
On a beaucoup dit aussi qu'avec la crise Covid, les petits boulots que font les étudiants pour payer notamment leur loyer avaient été supprimés, on avait été empêchés de faire ce travail-là. Est-ce que ça posait un problème spécifique ? Ceux qui contribuent à payer le loyer ou qui le payaient seuls, parce qu'on n'a pas toujours les parents derrière soi, est-ce que on a une réalité dure de ce point de vue-là ?
Oui, c'était effectivement un vrai sujet, puisque nous, on avait plusieurs milliers de réservations en cours pendant le Covid. Donc, on a analysé ça de près. Il n'y a pas eu d'explosion des impayés,
d'accord.
comme pouvait le prédire un certain nombre d'indicateurs. Il y a eu effectivement plus d'impayés, mais souvent, des solutions amiables se sont mises en place avec des échéanciers particuliers.
Donc, c'est important, ça. Ils se sont bien tenus, les étudiants. Non, mais c'est important de dire qu'ils ont priorisé le paiement du loyer, finalement. Il n'y a pas eu une casse comme on pouvait l'imaginer.
Alors, ils ont priorisé le paiement du loyer. Il y a eu surtout aussi un phénomène de départ anticipé,
bien sûr,
en fait, de retour chez les parents.
C'est ça, pour la période
pendant,
Covid.
Voilà, pendant la période Covid. Ouais,
d'accord. Un autre point de vue complémentaire. Est-ce qu'il y a une discrimination liée aux jeunes, parce que ce sont des jeunes ? Alors, en clair, ils vont faire la fête, ils vont faire du bruit, ils vont recevoir dans des copropriétés qui étaient calmes et qui ne le seront plus. Est-ce qu'il y a tout ça ? Est-ce qu'il y a un regard particulier porté, alors par l'administrateur de biens, mais au nom du propriétaire derrière ?
La question que tu poses, cette deuxième question, elle est plutôt tournée vers le propriétaire, pour le coup.
Oui.
Moi, je voudrais juste compléter avant de débuter, c'est que un chiffre, 2%. 2%, c'est le taux d'impayé aujourd'hui en France en location. Chez nous, chez Citia, c'est 1,3%. Je vais l'expliquer pourquoi très rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez les locataires, c'est deux fois moins. Pour une simple et bonne raison, c'est que souvent, c'est les parents qui sont cautions.
Chez les locataires jeunes, c'est ça.
Les locataires, excusez-moi,
étudiants.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une raison qui est déjà familiale. C'est qu'un locataire étudiant, quand il a ses parents qui sont cautions, Faut surtout affronter le regard de ses parents quand on ne paye pas son loyer.
D'accord.
Et qu'on a on s'est trompé entre les soirées et le paiement du loyer.
D'accord. Et donc, on ne va même pas jusqu'à actionner la caution. Il y a une discipline interne.
On ne le sait pas, mais en fait, je pense que la plupart des loyers, souvent, sont payés par la caution sans qu'on ait à l'actionner.
C'est ça.
Nous, chez nous, on ne peut pas parler de discrimination, et aucunement, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on on a nos logements qui sont attachés à une garantie des loyers impayés qu'on va appeler objective.
Très bien.
Citia Immobilier, en fait, on est les seuls en France à mettre ça en place. C'est le fait que dès lors qu'un locataire rentre dans un appartement, qu'il a mis ses documents dans le fameux locadoc, qu'il a été validé, l'assurance des loyers impayés paye sans justification.
Alors, très important, il y a une crainte aussi de dégradation. On peut se dire, les jeunes, ils n'ont pas un rapport aussi respectueux au logement.
Les plus gros sinistres que l'on a aujourd'hui, ce n'est pas des locataires. Déjà,
d'accord,
pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des petits logements.
Ouais, ouais.
Donc, ce n'est pas des sinistres qui sont importants. Et encore une fois, nous, étant donné que l'on loue des logements que nous gérons, nous avons l'avantage d'avoir des garanties locatives qui permettent aussi la remise en état. Donc, le fait aujourd'hui de penser qu'il y a une discrimination au fait que ce soit un étudiant ou pas un étudiant, je dis doublement non, parce que premièrement, ce sont sûrement dans les dossiers les mieux payeurs. Et la deuxième, c'est que, en tout cas pour nous, nous avons une garantie des loyers impayés objective qui ne tient pas compte de l'âge ou de la particularité du locataire. Dès lors qu'il est rentré, la garantie des loyers impayés paye l'incident.
C'est clair. Alors, on va retourner dans la rue, grâce aux questions de Charlotte Eckerl, et on va demander à des propriétaires ou des ménages qui pourraient être propriétaires et qui auraient face à eux des candidats locataires étudiants, quelles garanties ils exigeraient pour être parfaitement tranquilles. Alors, ça va, on va revenir à des solutions que vous proposez, peut-être encore à d'autres choses.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Pour être tout à fait clair, j'en avais eu il y a quelques années. Il se trouve que grâce aux APL ou aux aides diverses, ça couvrait à peu près le montant du loyer. Donc l'idéal, ça serait que ça soit versé sans que ça passe par l'étudiant en fait. Voilà, il faudrait un système où on est sûr que ce soit l'organisme qui paye directement le propriétaire. On est sûr que l'étudiant ne va pas boire son APL ou consommer au bar.
Bah, la garantie de ses parents pleine. À 100% sur l'intégralité du loyer et de préférence les deux parents.
Alors, est-ce que vous connaissez les dispositifs de garantie qui peuvent prendre le relais d'un locataire étudiant en cas de difficulté de paiement de loyer ?
Non, pas du tout. Non, je les connais vraiment pas.
Non, pas très bien. Et sans faire de la phobie administrative, j'ai pas envie de m'y pencher. Je préfère trouver le bon candidat. De plus en plus, pour les locataires, je passe par un cercle de proches, d'amis, dont les enfants ont besoin de se loger. Voilà, ça garantit pas la sécurité, mais le réseau, c'est important.
Bon, on voit bien que les personnes interrogées, pour certaines, sont avisées, pour d'autres, ne le sont pas, n'ont pas non plus envie de s'embêter. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir un administrateur de biens. Au-delà de ce que tu nous décrivais, Christophe, un produit maison, très performant, peut-être que tes confrères n'ont pas des produits aussi performants, mais on peut couvrir les impayés, les dégradations avec des assurances, notamment chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs, des dispositifs publics ? On a entendu le versement direct des APL, qui en effet peuvent constituer une partie importante du loyer. Et puis, on a parlé de la caution personne physique, également des parents. Non. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sécurisation ?
Non, la sécurisation, effectivement, moi je ne prêche pas pour ma paroisse pour le coup, mais je pense que la meilleure de sécurisation, c'est une bonne caution. Quand vous avez un tiers qui est dans l'engrenage, vous avez deux regards sur le paiement du loyer. La deuxième sécurisation, et ça, pour être franc, je pense que nous sommes les seuls à le faire, c'est d'assurer la véracité des documents qui nous sont remis.
D'accord.
Pour une simple bonne raison, c'est que souvent, il y a des locataires qui rentrent dans les lieux et qui nous produisent des fiches de paye ou des contrats ou d'autres documents qui ne sont pas réels. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, effectivement, pour les APL, je vais te répondre très précisément, il y a une possibilité de substitution. Nous, il y a certains locataires pour lesquels nous touchons les APL en direct.
Et il faut l'autorisation du locataire, je crois,
oui,
hein, dans ce cas-là. C'est ça,
oui,
hein,
oui,
bien sûr.
Il faut,
parce que c'est lui qui est éligible.
Exactement. Donc, en fait, alors, il y a certains administrateurs de biens qui l'imposent. Et ça, c'est pas normal, c'est
non.
pas légal.
Non.
Nous, en tout cas, aujourd'hui, on le recommande, ce qui permet que nous appelons aux locataires, ni plus ni moins qu'après le reliquat.
Bien sûr. D'accord.
Donc, c'est un moyen de sécurisation.
Très clair. Je disais que ça pouvait constituer une partie importante du loyer. En moyenne, on entendait dans la rue quelqu'un dire que ça couvrait presque le loyer. Ça peut aller jusque-là ?
Non, alors ça peut atteindre...
30%, 20%.
Oui, ça peut atteindre des pourcentages importants, ouais. Mais tout va dépendre du logement.
Du logement loué, bien sûr.
Et puis du type de locataire.
D'accord. Alexandre, alors, autre dispositif qui pourrait exister, est-ce qu'il n'y a pas de dispositif public qui viendrait sécuriser aussi les locataires et les propriétaires bailleurs?
Si, bien sûr. Aujourd'hui, il y a pas mal de garanties, hein, qu'elles soient privées comme la nôtre, mais il y a aussi celle qui est mise à disposition de l'État aujourd'hui, qui est la garantie visale, et qui, pour un certain nombre de loueurs aujourd'hui, est acceptée, et du coup qui permet d'avoir un tiers qui se porte garant, enfin qui remplace le garant physique tout simplement.
D'accord.
Qui est demandé dès lors qu'on ne l'a pas ou qui a un revenu insuffisant.
Tous les étudiants, sans être très précis, on n'en a pas le temps, mais tous les étudiants ont accès à cette garantie visale. Comment ça se passe ? Qui va la chercher ? C'est le propriétaire ? C'est le locataire ?
En fait, la garantie visale aujourd'hui est très ouverte, c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, on peut l'obtenir. Ce qui fait la différence derrière, c'est le taux d'acceptation de cette garantie par le loueur, in fine, est-ce qu'il y fait confiance ou pas dans le process de recouvrement des impayés? Et donc là, il y a des avis qui divergent en fonction des agences immobilières, des réseaux d'agences de résidences étudiantes qui les acceptent, parfois non, et même chose dans le parc privé particulier.
Là, qu'est-ce que c'est l'arrière-pensée? Là, ce n'est pas une arrière-pensée vis-à-vis du locataire jeune, c'est vis-à-vis d'un dispositif public d'État qui pourrait ne pas être assez rapide ou ne pas tout couvrir, c'est ça?
En fait, comme le disait tout à l'heure la personne que vous avez interrogée, tout est une question de process, phobie administrative,
oui.
La peur du changement aussi. C'est quelque chose de nouveau, j'ai pas forcément envie de m'en occuper et je suis dans un marché où l'offre est souvent plus basse que la demande. Est-ce que vraiment je vais faire cette démarche pour accepter un nouveau produit qui est pourtant un bon produit, mais qui effectivement dans sa mise en œuvre et dans sa communication auprès des propriétaires reçoit des avis qui divergent?
Tiens, une question on prenne de suspicion, mais on a entendu ça. Est-ce que dans certaines villes où la demande est très forte, les loyers sont augmentés parce qu'on sait que le logement se destine à des jeunes qui vont être éligibles aux APL? Est-ce que des loyers peuvent augmenter à due concurrence des APL? L'état du marché aujourd'hui, est-ce que c'est... Il est en surchauffe ou pas ?
C'est un marché qui est en surchauffe, oui. En fait, tout à l'heure, on parlait de manque d'offres. Il manque surtout dans beaucoup de villes des offres à loyer accessibles auprès des étudiants. Aujourd'hui, il y a un énorme développement du parc privé parce que ça attire beaucoup les investisseurs. C'est plutôt des produits qui sont très rentables, hein. Un logement étudiant... aujourd'hui apporte une rentabilité assez forte.
C'est le studio, la studette, c'est ça? C'est,
oui,
c'est
voilà, le coût d'accès à ce type d'appartement permet d'élargir la population des personnes qui peuvent investir parce que le nombre de mètres carrés est plus petit. Et vu qu'il y a beaucoup de demandes, on s'assure un taux d'occupation qui peut être assez fort. Et donc effectivement, oui, aujourd'hui il y a des villes et donc qui dont les loyers ont assez explosé. Ouais.
Et est-ce qu'il y a le sentiment que l'offre intermédiaire, c'est-à-dire celle qui est dans les mains des professionnels, a des atouts? Alors des atouts, ça peut être une plus grande modération de loyer, parce que le professionnel, il veut que ça se loue vite et bien, et donc il est dans le marché. Les particuliers, quelquefois, ont des exigences majorées. Sur la qualité aussi des biens, c'est un point très important. Est-ce qu'il y a une différence? Si c'est non, on dit c'est non. Ça fera de la peine peut-être à Christophe, mais c'est pas grave.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais... La crainte aujourd'hui des propriétaires, c'est pas forcément vis-à-vis du profil ou des garanties. Il y a aussi cette espèce de rotation et de durée finalement de séjour. On se dit, l'étudiant, il va rester un semestre, deux semestres. Je préfère louer un jeune actif en CDI, je sais qu'il va rester 2-3 ans. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec le modèle économique des agences immobilières, il y a deux points qui sont assez friction pour les étudiants. Le premier, c'est que régulièrement, l'agence immobilière, à chaque relocation, prend des frais côté propriétaire. Et donc, le propriétaire peut se dire, tous les ans, ça commence à faire beaucoup de me prendre, de me prendre des frais.
On va faire réagir dans 10 secondes pour il finira là-dessus. Et ensuite
et le deuxième point, c'est que historiquement, les portefeuilles d'agences immobilières et des gros réseaux, hein, Citia ou d'autres, ont un portefeuille de logements vides. qui fait que la propension de logements meublés finalement reste assez faible dans l'offre qui est proposée sur
et
le marché.
Et les étudiants veulent essentiellement des logements meublés.
C'est une demande première, mais on peut aussi avoir des étudiants qui se projettent plus long terme et qui acceptent de
meubler. Tu as 30 secondes pour répondre sur ces deux points importants. Honoraire de relocation, alors ça c'est le point de vue du propriétaire bailleur. Et deuxièmement, envie de meubler. Est-ce que vous avez des meublés désormais dans les portefeuilles ?
On a des meublés. 30 secondes. Parce qu'on a des meublés, je ne suis pas sûr que ce soit le modèle le plus pertinent, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le surloyer lié au meublé coûte beaucoup plus cher
que de meubler
d'aller chez une grande surface suédoise.
C'est une bonne réponse.
Aller acheter des meubles. La seconde chose, sur le prix du loyer, sur le prix des honoraires, nous aujourd'hui on plafonne nos honoraires le plus souvent sur les locataires, donc ça c'est pas le sujet, mais sur le propriétaire, on a une relation nous particulière avec nos propriétaires et dès lors qu'on aurait un locataire ou deux locataires dans la même année, on ne facture qu'une seule fois les honoraires. D'accord. Mais je voudrais juste faire une aparté. Ce n'est pas la qualité étudiantine qui va faire la rotation, c'est la qualité de l'appartement. C'est-à-dire que si vous avez un appartement qui est un studio, de toute façon, même si vous avez quelqu'un qui n'est pas étudiant, vous aurez quelqu'un qui, de toute façon, sera volatile.
Oui. Alors que sur les grands logements, ça va être une famille, ça va être plus de stabilité.
Donc un propriétaire qui est propriétaire d'un studio, qu'il est un étudiant ou qu'il est une personne non étudiante, il aura toujours ce même risque de la rotation. Après, à nous, pour ce qui nous concerne sur l'administration de biens, d'avoir une relation privilégiée avec notre client et de lui expliquer.
Je voudrais vous remercier tous les deux. Je crois que vous avez apporté beaucoup d'informations. On sort de cette émission rassuré. On sent quand même que le marché, il est tendu, il manque des logements. Les associations disent qu'il faudrait 375 000 logements pour les étudiants en plus dans ce pays. Alors vous en avez sous le pied. Mais enfin, déjà avec la matière première qui existe, visiblement, vous apportez des solutions, de la sécurité aux locataires comme aux propriétaires bailleurs. Et finalement, on ne voit pas pourquoi les propriétaires bailleurs n'apprécieraient pas cette clientèle. Merci beaucoup de votre transparence et de votre expertise à tous les deux. Merci Alexandre, merci Christophe.
Merci Henri.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.